l'annonce suivante, c'est que Stéphane n'est pas là. Vous en êtes aperçu? Voilà, rien de grave, il n'est pas malade du tout. Je crois que ça fait presque un an qu'elle est installée là-bas, notre chère Lorane, dans, c'est quoi, c'est Castelnaudary, à Castelnaudary. Et donc Stéphane et Anne ont pris ce week-end pour aller la visiter avant qu'elle soit mutée ailleurs. Que Dieu la bénisse dans tous ses déplacements. Et nous, nous allons voir quelque chose ce matin. Et je serai chargé d'annoncer l'Évangile. Cet après-midi, il y aura la réunion, comme d'habitude. Et le Seigneur bénira aussi. Alors, pendant que 2 Pierre 3,9 s'affiche, s'il te plaît, deuxième épître de Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 9, j'aimerais vous dire que Dieu nous donne du temps. Ouais. Je suis allé voir mon médecin vendredi dernier, et c'était vendredi ou un autre jour, qu'importe, et il m'a dit, voilà, je vous donne un an et vous revenez me voir. Ah, j'avais un an devant moi. Mon médecin me donne le temps avant de refaire mes examens. Et Dieu nous accorde du temps, il vous accorde du temps, il nous laisse du temps. Et voici ce qu'il est écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à leur repentance. » Ce temps que Dieu donne, on a vraiment l'impression, lorsqu'on connaît l'Évangile, lorsqu'on a été dans ces réunions, lorsqu'on a entendu les prédications des pasteurs, que Jésus vient de suite, là, qu'il revient aujourd'hui. Et on a raison de le croire. Comme ça, au moins, on ne sera pas surpris le jour où il apparaîtra. Et on ne se prépare pas, on est déjà prêt. Et ça, parce qu'on n'aura pas le temps de se préparer. Hein ? On n'aura pas le temps. Et non, Dieu ne tarde pas. Non, il n'est pas en retard. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas un retard non prévu, il y a peut-être un problème technique. Non, il n'y a pas de problème technique. Tout est prêt. Jésus revient. Mais voilà, Dieu veut laisser un temps. Un temps pour les nations. Un temps pour ses enfants. Un temps pour chaque homme, chaque femme. Car dans son souhait, il ne veut qu'aucun périsse. Alors bien sûr, ici, aucun périsse, ce n'est pas la mort physique dont il est question ici. Non, nous allons tous, si Jésus ne revient pas, passer par cette étape de la mort. Ne croyez pas que l'on va découvrir l'immortalité en médical d'ici 10 ans et prolonger votre vie éternellement. Ce n'est pas du tout ça. Il n'est pas question ici de cette mort physique que nous connaîtrons tous, mais c'est cette mort spirituelle, cette seconde mort. Cette condamnation éternelle, cet étang de feu, cette chose qui pend au nez de tous ceux qui refusent d'entendre la bonne nouvelle. Et Dieu use de patience avec eux. Dieu veut être patient. Le dessein profond de Dieu, après avoir créé l'homme, c'est de le sauver. C'est notre salut, afin qu'aucun périsse. Pour arriver à ce salut, pour arriver à ne pas périr une seconde fois, eh bien, il désire que tous arrivent à la repentance. Alors, ce n'est pas un terme à la mode aujourd'hui, la repentance. Même certaines traductions l'ont retiré. Changement de vie, etc. Et pourtant, je pense que dans le sens profond de la repentance, il y a plus que de vouloir changer de vie. Il y a aussi un règlement de la vie passée. Amen. Eh oui. Eh oui. Et pour passer au salut, nous dit ce texte, il faut arriver à la repentance. Et je dirais que sans repentance réelle, il y a une illusion de salut. Il y a des gens qui aiment bien l'Église, bien les chants, ils sont même touchés par les chants, mais derrière, il n'y a pas un changement profond dans le cœur. Et ils ont une illusion d'être perdus, d'être sauvés, et ils sont perdus. Parce que si on n'est pas tout à fait sauvé, on est complètement perdu. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a pas d'endroit dans le ciel où on pourrait être éprouvé encore une fois, une sorte d'invention catholique qui nous permettrait peut-être d'échapper au jugement de Dieu. Non, c'est aujourd'hui que nous devons prendre avec sérieux cette repentance. Et vous savez, dans la religion aujourd'hui, on a remplacé la repentance par une confession. Il suffirait de confesser un péché pour que ce soit fini. Mais il y a quand même une marge entre reconnaître et à vous éprouver de la repentance. Et confesser son péché, c'est qu'une étape, c'est important. Bien sûr, si tu caches ton péché, si tu ne vas pas devant Dieu pour dire « oui, c'est vrai, ça, c'est pas bon dans ma vie », si tu le caches, tu ne pourras pas arriver à la repentance. Mais ce n'est pas parce que tu as confessé ton péché qu'il est pardonné. Oh non, il y a encore des étapes. Confesser n'est qu'une étape vers la repentance et une étape vers le salut. Alors, je pense que pour avoir une véritable repentance, il faut réaliser le poids de douleur de notre péché sur les épaules de Jésus. Christ est mort pour tous, mais il est mort pour moi, à ma place. Christ a pris le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est bien. Mais voici l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Et comment l'a-t-il fait ? En étant frappé à ma place et en portant la peine de mon péché. Et tant qu'on ne réalise pas le poids de douleur de Christ à cause de mon péché, eh bien, on ne peut pas réaliser réellement une véritable repentance. Et ce n'est pas rien que de reconnaître que Christ a pris sur lui mon péché. J'aimerais qu'on affiche Ésaïe 53, verset 4, qui est certainement la plus belle prophétie sur l'œuvre de Christ à la croix. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et le verset suivant nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés. » Ces blessures, c'est nos péchés, brisés. C'est très fort comme mot, brisé. Et qu'est-ce que Christ a souffert à la croix ? C'est bien un brisement total, jusqu'à s'écrier « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Guéris physiquement, guéris spirituellement, guéri de notre péché. Cette guérison est entière, elle est profonde. Je confesse que je suis pécheur, mais je réalise aussi ce que Jésus a enduré à cause de mon état de pécheur, à cause aussi de mes péchés. C'est bien de dire « je suis pécheur ». Ouais, je suis un pécheur, Seigneur, je me repens, je suis un pécheur. Mais réalise ce que tu as fait. Quels sont tes péchés ? Tu le confesses à Dieu et tu dis, Seigneur, c'est vrai. C'est à cause de chacun de mes péchés que Christ a été offert ou s'est offert. Et cette révélation, c'est une révélation. À un moment donné, devant nos yeux, eh bien, nous avons l'impression que Christ est mort que pour nous. C'est une révélation, la croix. Quelque chose, et on voit Christ souffrir et on se dit, c'est pour moi. C'était ma place. Lui, le chien juste, le saint, il l'a prise. Et dans cette révélation, eh bien, ça ne peut s'accompagner que par un profond regret. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Si j'avais su que ça allait reposer sur les épaules d'un seul homme, ben, j'aurais quand même fait, pu faire mieux. Hein. Il y a une chanteuse célèbre de nos grands-parents qui disait « Rien, non, rien de rien, je ne regrette rien ». C'est cette chanson. Hein. Ni ça, ni ça, ni ça. Eh bien, au contact de la croix, c'est « Je regrette tout, Seigneur ». Je regrette tout parce que, Seigneur mon Dieu, tout a été un moyen de souffrance supplémentaire pour toi. Et je réalise aujourd'hui non seulement l'état dans lequel je suis perdu, ça c'est quand même une révélation qui est fou, hein. Même si j'ai fait des choses bien, même si je suis perdu, mais en plus, cette perdition, ce péché, cette nature et ce que j'ai fait, eh bien Christ l'a porté sur lui et ça a dû être un moment terrible. Terrible, je regrette tout. Et alors, le sens profond de la repentance, c'est l'étape suivante. C'est plus possible, Seigneur. Je ne peux plus vivre comme j'ai vécu. Devant la révélation de la croix, devant l'énormité de mon péché, devant la chose qui t'a fait le plus souffrir, je me dis que ce n'est plus possible, Seigneur. Alors, je sais, je prends la décision définitivement de tourner le dos à mon péché. Je me dis, c'est plus possible, Seigneur. Alors, bien sûr, je reste un homme, une femme, quelqu'un de fragile. J'ai besoin de toi, je m'approche de toi. Mais je sais, Seigneur, qu'en toi, j'ai la puissance de rester fidèle. Alors, le sens profond, c'est cela. C'est le désir sincère de changer de vie. Vous avez le désir sincère de changer de vie et le Seigneur va vous donner la nouvelle naissance. C'est formidable, ça. Il va vous donner de franchir un cap. Il va vous accueillir. Il va dire non seulement « Je te pardonne sur ton passé, mais je mets sur toi un état de grâce qui va te permettre de vivre comme cela dans la vie de tous les jours, de changer ta nation, de ta façon d'être, parce que je vais changer ta nature. » Et ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans 1 Timothée 2,4, on pourrait le voir, que, parce qu'il y a un petit doute hein, dans celui qu'on a lu tout à l'heure, je le reprends, il est dit, « Mais il use de patience envers vous. » Et on pourrait croire que dans cet épître de Pierre, eh bien, la patience de Dieu ne concerne qu'une certaine catégorie de personnes. Mais ici, il est bien dit, écrit, qu'il veut que tous les hommes, toute l'humanité, les hommes et les femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La bonne nouvelle, c'est que tous les hommes sont concernés. Lorsque nous donnons notre témoignage, lorsque nous offrons des évangiles, lorsque nous prions pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, lorsque nous jeûnons ici et que nous intercédons pour les perdus, nous sommes en accord avec Dieu. Nous sommes dans sa volonté. Priez pour tous les hommes, dira l'apôtre. Nous sommes dans sa volonté. Et quand nous faisons des sélections, quand nous disons pas celui-là, nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus dans le cœur de Dieu. On va parler du cœur de Dieu, car nous savons très bien ce verset que nous prononçons très souvent de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, il est question d'un cœur. Il n'est pas question d'un plan, établi sur un bout de papier en disant, voilà, moi je suis deux, donc je fais ça, ça, ça. Il est question d'un plan qui a été fait avec le cœur. Ce n'est pas l'esprit qui a fait ce plan, c'est le cœur. C'est le cœur. Tous les hommes sont conservés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et là c'est bien l'universalité de la promesse du salut, je vous donnerai une alliance nouvelle. On l'a lu tout à l'heure dans Jérémie 31:31. Depuis que Christ est ressuscité jusqu'à aujourd'hui, Dieu retient le retour de Jésus afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Christ est là, il est prêt. Mais le temps est suspendu, c'est le temps des nations, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de l'évangélisation, c'est le temps de faire connaître le plan de Dieu, c'est le temps, parce que tout est accompli, tout a été fait, c'est bon, maintenant c'est à nous de le dire, c'est à nous de le proclamer, c'est à nous de le faire connaître, c'est à nous de le vivre aussi, et d'être un exemple par notre vie, d'être une proclamation par notre vie, s'il le faut, lorsque nous serons obligés de nous taire, mais nous, nous avons le temps, la patience de Dieu envers les hommes. Et les femmes de notre génération est un temps, c'est pas un temps difficile, c'est un temps favorable, nous dit la parole de Dieu. Nous arrivons vers des temps difficiles. Il y a certains pays qui traversent des temps difficiles, mais aujourd'hui pour nous c'est un temps favorable pour l'Église, c'est-à-dire moi. Témoigne au monde de la croix de Jésus. Et dans cette tâche de la plus haute importance, il ne nous laisse pas seuls. Face à l'incrédulité des perdus, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui habite en nous afin d'être un témoin puissant pour apporter le salut. Acte 1:8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant pour vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et vous serez mes témoins. Et Dieu laisse le temps. Mais combien reste-t-il aujourd'hui? Qui peut me dire, comme ce médecin, « Bon, revenez l'année prochaine. » Est-ce que je peux vous dire, « Ben, vous avez le temps. Revenez l'année prochaine, on reparlera de ces choses-là. » Je n'en sais rien. Amen. J'ai un ami, le matin, il se lève, 69 ans, en pleine forme. C'est mercredi, il y a 15 jours, il tombe. Le pompier arrive, il a fait un infarctus, quelque chose, un arrêt cardiaque. Il arrive à le ranimer, il se relève. Il dit, ah ben, je vais aller. Et paf, il tombe, c'était fini. Il était prêt. Tout était prêt pour lui. Tout était clair dans sa vie. Tout était clair. Combien de temps? De toute façon, la réponse est très peu. Il y a trop peu de temps pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. En tout cas, trop peu de temps pour perdre du temps. Et très peu de temps pour aller trouver ceux qui sont perdus, ceux qui vont mourir dans l'année, ceux que nous n'allons croiser qu'une seule fois dans notre vie. On va les voir qu'une fois. On aura juste un temps pour leur dire, pour leur laisser quelque chose. Moi, je remarque une chose, et peut-être que vous faites la même constatation que moi, c'est que Dieu m'a laissé du temps. Il a eu beaucoup de patience avec moi. Il m'a laissé du temps. A-t-il été impatient avec vous? Ou le fait que vous soyez là ce matin prouve la patience de Dieu plus que votre obéissance? La patience de Dieu. Et il est même écrit que lorsque nous avons été infidèles, ou lorsque j'ai été infidèle, il reste fidèle. 2 Timothée 2:13, il est écrit, « Si nous sommes infidèles ou incrédules, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Tout à l'heure, on a chanté, « Tu n'abandonnes, tu ne m'abandonnes jamais. » Jamais. Et ça, nous devons réaliser le temps qu'a passé Dieu pour nous attirer à lui, pour nous faire connaître l'Évangile. Aujourd'hui, Dieu nous a donné du temps, et je le sais que nous avons au moins ce temps de culte devant lui ce matin. Au moins, nous avons du temps dans sa présence. Alors la question que je me pose, mais pourquoi faire? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ce temps ce matin ensemble? Quel est le plan de Dieu pour l'Église ce matin, pour nous personnellement? Pourquoi ce temps? Pourquoi ce temps? Il y a des temps de réjouissance, des temps de reconnaissance, des temps pour l'adorer. Il y a des temps pour se repentir. Il y a des temps pour trouver le salut. Il y a des temps pour recevoir l'Esprit, il y a des temps pour être appelé, il y a des temps pour se... La Bible, l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour ramasser des pierres et pour jeter des pierres. Qu'est-ce qui est plus inutile que ça ? Et même là, il y a un temps pour tout. Et Dieu nous dit ce matin, c'est un temps pour toi. C'est un temps pour toi où je m'adresse à ton âme. Je prends un temps particulier afin qu'à travers la prédication, tu puisses réaliser quelque chose de nouveau, de fort, un temps. Vous savez, dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, nous avons la description du retour du peuple d'Israël à Jérusalem. Ils avaient été dispersés, Jérusalem avait été rasée, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de murailles, plus de maisons, que des amas de pierres. Mais avec un peu de cœur et les pierres, ils ont commencé à rebâtir le temple. Et nous avons comme ça des étapes, des temps particuliers, des temps qui ont marqué ces moments de reconstruction, des moments où on rebâtit, des moments où on repart. Et il y en a plusieurs comme ça, il y en a quatre ou cinq qui sont tout à fait particuliers. Il y a le moment où ils ont mis la première pierre du temple. Et il paraît que ça a été un moment de joie extraordinaire. Sauf que parmi la joie, on entendait des pleurs également parce qu'il y avait des personnes qui avaient connu le temple du temps de sa magnificence et qui pleuraient de voir cette malheureuse pierre qui avait été ajoutée. C'était des temps mélangés. Et puis, il y a eu d'autres temps. Il y a eu un temps de fête et ils ont découvert que cette fête était particulière. Ça s'appelait la fête des cabanes. Alors, ils étaient tous réunis et on pourra le lire tout à l'heure. Et puis, ils ont lu la parole. Et puis, pendant 7 jours, il y a eu une fête extraordinaire. Mais ça a commencé de façon tout à fait particulière, une façon particulière. Et j'aimerais qu'on le lise dans Néhémie 8, verset 1. Néhémie 8, verset 1, et après on lira le verset 9. N'est-ce pas ? Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, hein, de la Genèse, jusqu'au Deutéronome, prescrite par l'Éternel à Israël. C'était leur livre, c'était leur loi. C'était ça qui faisait le fondement de leur foi. Et on lit au verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant la parole de Dieu. Esdras et Néhémie voulaient faire une fête magnifique ce jour-là. Ils voulaient que tout le monde se réjouisse en entendant la parole de Dieu. Mais ce n'était pas le temps des réjouissances pour le peuple, car l'Esprit de Dieu les a saisis et ils se sont aperçus combien ils étaient loin de l'Alliance, combien ils avaient de chemin à faire pour s'approcher de Dieu. Et au lieu d'être un temps de fête, ça a été un temps de larmes, un temps de repentance. Les gens étaient désolés. Alors, les Lévites, Esdras, Néhémie, se sont dit, écoutez, on va faire la fête. On va faire la fête pendant 7-8 jours. Continuons à écouter la parole. Mais ils l'ont dit, la joie du Seigneur sera votre force. C'était évidemment un temps particulier. Nul n'avait prédit ce qui allait se passer. Tous avaient préparé la fête et ils se sont tous mis à pleurer. Aussi, le dernier jour de la fête, 8 jours après, se fut déclaré un temps de jeûne, de prière, d'humiliation. Et le peuple est venu comme un seul homme se réunir. Et ils se sont mis à confesser leurs péchés. C'était très profond. Ils se sont mis à dire, mais nous, la loi, on ne l'a pas accomplie. Et la fin de cette fête a été un grand moment. Personne n'avait prévu ça. Personne ne s'y attendait. C'était un temps de repentance. Cette repentance va surprendre même Néhémie et Esdras, qui étaient pourtant des hommes de Dieu. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, c'est la fête. Mais voilà, c'était le moment de la repentance. C'était un temps de repentance. Dans 1 Jean 1,9, il est dit, voici ce qu'il est écrit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, même nous, même ceux à qui s'adresse Jean, eh bien, si nous confessons nos péchés ce matin, eh bien, il est fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous vous rappelez des larmes de Pierre ? Oh Seigneur, si tous t'abandonnent, moi j'irai jusqu'au bout, je vais mourir pour toi. Regarde mon épée. Mais au premier coup d'épée, il se sauve. Il n'était pas très habile avec son épée puisqu'il a juste réussi à érafler l'oreille de ce serviteur. Et Jésus d'ailleurs va guérir ce serviteur. Quelle grâce. Pierre a renié le Seigneur. Pierre a renié le Seigneur. Lui, en qui Jésus avait mis toute cette confiance, qu'il avait formé particulièrement, il le prenait avec lui à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important. Il l'avait accompagné sur la montagne où Jésus avait été transfiguré. Il avait dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc bien sûr, on sait qu'il avait fait un jeu de mots, et que la pierre en question, c'était lui-même, lui, que l'apôtre Pierre décrira lui-même dans son épître, il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Pierre le savait. Mais là, il va se voir face à ses incompétences, face à son péché, face à... Vous savez, Dieu a dit, Jésus avait dit, celui qui me reniera, je le renierai. Celui qui est infidèle, je resterai fidèle, mais celui qui me reniera, je le renierai. Et Pierre s'est senti vraiment mal ce jour-là. Vraiment mal. Devant une servante, devant... Il a renié le maître. Mais non, je vous en jure, je vous promets. Mais voilà, Jésus va laisser le temps à Pierre, de revenir doucement dans la course. Il va lui laisser le temps. D'abord, dès qu'il est ressuscité, il dira, allez dire aux apôtres et à Pierre. Il prend soin de le préciser. Et puis, vous savez, ce soir-là, où Jésus était sur le bord du lac à faire griller des poissons, et où ils ont fait une nouvelle pêche miraculeuse, Pierre s'est jeté à l'eau. Et Dieu va lui laisser du temps. Et Jésus va lui parler, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu plus que les autres ? Plus que eux-mêmes ? Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Il va prendre du temps pour effacer les reniements de Pierre. Il prend du temps. Dieu prend du temps. Dieu nous donne toujours du temps. Aujourd'hui, il veut passer du temps avec nous. Vous savez, Pierre a été transformé par cette expérience. Transformé. Imaginez que quand il a reconnu Jésus là-bas, il se soit parti en courant de l'autre côté, en nageant ailleurs. Il serait passé à côté de toute sa vie, de tout ce qu'il allait vivre. Il serait passé à côté de ses prédications remplies du Saint-Esprit. Pierre était un autre homme parce que Dieu a pris le temps avec lui. Et Dieu nous donne un temps aujourd'hui. Il veut passer du temps avec nous. Il veut passer un temps avec moi. Il veut me parler. Et ce matin, c'est un temps de fête. Mais c'est un temps de reconnaissance. Ou est-ce un temps de repentance ? Je pense que chacun doit répondre dans son cœur. Chacun doit sentir la présence de l'Esprit dans son cœur et répondre à Dieu. Tu es le seul à pouvoir répondre, mais ce que Dieu ne veut pas, ce que Dieu ne supporte pas, c'est que nous passions à côté de ce temps sans répondre. Dieu attend notre réponse. Il attend. C'est notre temps. Le temps de l'Église, le temps des frères et sœurs, le temps avec Dieu. Nous avons chanté ce chant tout à l'heure. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sommes-nous prêts à nous laisser sonder par Dieu ce matin? Sommes-nous prêts à écouter la voix de l'Esprit de Dieu pour transformer ce temps en un temps bénéfique pour notre vie, un temps d'enrichissement spirituel, un temps qui va nous marquer, un temps avec le Seigneur? Moi, je pense que si on écoute bien la voix de l'Esprit, et quelquefois elle est très forte, mais quelquefois elle est subtile, c'est un doux murmure. Mais le Seigneur est présent et il veut nous faire comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Il veut changer ce temps en un temps de grâce. Amen. Alors on va prier, on va courber nos fronts et on va demander au Saint-Esprit de nous bénir, de nous garder ce matin.